Bonjour à tous et à toutes. Ésaïe 42, le serviteur de l'Éternel. Nul besoin d'être prophète pour dire ce que nous allons partager ce matin. Et mon épouse m'a préparé un... Mon épouse et assistante direction préférée m'a préparé un... magnifique présentation. J'ai ma mère qui est en EMS depuis quelques années. Et puis les semaines sont difficiles physiquement. Heureusement, elle a toute sa tête, alors elle a encore le temps de lire sa Bible, de lire des livres et de prendre du temps dans la prière. Et puis je l'appelle toutes les semaines pour lui demander des nouvelles, pour l'encourager, et elle m'encourage aussi. Et lorsque je lui ai parlé de Ésaïe, que j'allais préparer un message, partager un message sur Ésaïe, elle m'a dit « Oh, mais Ésaïe, quel livre merveilleux !» Et cela m'a beaucoup encouragé, et cela a aussi beaucoup encouragé, je pense, parce que la ferveur d'une prière d'une maman pour que son fils vienne au Christ, pour que Christ le conduise dans toutes ses œuvres, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Et je pense qu'il y a beaucoup de mamans ce matin qui s'associent à ce que je dis. Et oui, ce livre d'Ésaïe, il est de tous les qualificatifs. C'est un livre merveilleux, c'est un livre remarquable, c'est un livre exceptionnel et c'est un livre très intéressant parce qu'il apporte beaucoup il amène beaucoup de thématiques. Et c'est un livre qui amène beaucoup de dimensions sur la parole de Dieu, sur l'œuvre de Dieu. Et on pourrait dire que c'est un livre en trois dimensions. En 3D, pourrait-on dire, un D avec un D majuscule. Alors, je vous propose une petite introduction au livre d'Ésaïe qui vous encouragera, vous aussi, à l'étudier, à le parcourir. Et comme je l'ai dit, voilà, le livre d'Ésaïe en trois dimensions. Et ces trois dimensions... Oui, c'est plutôt ici, je crois. Il y a d'abord une dimension qui est historique. Au chapitre 1, du chapitre 1 au chapitre 39. Contexte historique, parce que lorsqu'on y regarde, eh bien, le peuple, les deux royaumes de Juda et d'Israël sont divisés à la suite de la mort de Salomon. Et ils font appel à des forces extérieures, des puissances extérieures. Et puis, ils se séparent de plus en plus de Dieu, conduits par des rois qui sont de plus en plus idolâtres. Et là-dedans, eh bien, la parole d'Ésaïe interpelle ces rois, interpelle son peuple à revenir à Dieu. Il y a une dimension messianique au chapitre 40 à 55, il faut que je lise mes notes, c'est mieux. Et puis bien sûr, dans ce livre d'Ésaïe, c'est Christ qui est annoncé, avec une telle force, une telle ferveur qu'on appelle le livre d'Ésaïe le cinquième évangile. Et puis, il y a la troisième dimension, qui est une dimension eschatologique. Alors, pour ceux qui ont fait le livre d'Apocalypse, l'eschatologie concerne la fin des temps. Tout ce qui va se passer lorsque Christ reviendra, le jugement dernier, ainsi de suite. Chapitre 56 à 66. Et puis, ça ne s'arrête pas là, car ce livre en trois dimensions est aussi sur trois niveaux. Alors, le premier niveau, c'est le salut par le Messie, le Messie-Roi au chapitre 1 à 35. Et donc, le Messie-Roi envoyé est dépendant de Dieu en opposition avec les rois du royaume de Juda et du royaume d'Israël, rebellé contre Dieu par l'idolâtrie et dépendant des puissances économiques et militaires de l'époque, comme les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens et enfin les Mèdes. Les Mèdes, c'est l'actuelle Turquie. En Ésaïe 7, 17, il est dit « Par l'intermédiaire du roi d'Assyrie, l'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur ta famille des jours tels qu'il n'en a jamais eu, de pareil depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda. » Le deuxième niveau, c'est le contexte historique, où ça parle d'un contexte particulier, au chapitre 36 et 39. Et ce contexte historique, il vient compléter en fait ce qu'on l'on trouve dans les livres des rois, dans 2 Rois, chapitres 14 et 21, et dans 2 Chroniques, chapitres 26 à 33. Et c'est primordial de lire ces livres historiques pour bien comprendre ce que Ésaïe vit et ce que les royaumes d'Israël et de Juda vivent et ce à quoi ils sont confrontés et quels sont leurs choix. Et la conséquence de ses choix. Alors, j'ai aussi un petit synoptique. Et le livre d'Ésaïe, alors on m'a dit qu'il y avait un pointeur là, que j'ai déjà oublié. Oui, c'est là. La période d'Ésaïe, elle est ici, hein, de 200 à peu près jusqu'à 700. Et le livre d'Ésaïe, il annonce la fin d'Israël, donc Israël avec sa capitale Samarie, qui est envahie par l'Empire assyrien et déportée. Et puis ensuite, il y a le royaume de Juda, avec la capitale de Jérusalem, qui vit aussi des grandes tensions et des grandes oppositions intérieures et extérieures. Et puis finalement, après 100 ans, eh bien, elle sera elle aussi déportée. Elle sera déportée à Babylone. Et puis ensuite, en 586, il y a le retour de l'exil par le biais des Mèdes. Ça, on va y revenir. Alors, c'est très schématique, hein, mais ça représente bien le sujet. Ça veut plus si ça y va. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est le troisième. J'ai parlé de deux niveaux, et il y a un troisième niveau, c'est le salut par le Messie serviteur au chapitre 40 et 66. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est que dans ce troisième niveau, il y a trois chiasmes. Le premier chiasme, c'est l'annonce d'un rédempteur au chapitre 40 à 48. L'œuvre du Rédempteur, chapitre 59 à 57, et le règne du Rédempteur, chapitre 58 à 66. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'il y a des petites flèches. Les petites flèches indiquent quatre chants, quatre poèmes. Et le premier poème, c'est le chapitre 42, avec trois autres poèmes ici, 49, que je crois Corinne nous apportera le message, et puis j'apporterai le dernier message sur 52 et 53. J'ai un ami, de longue date, un ami suisse alémanique qui prépare depuis de longues années un commentaire sur Ésaïe. Et ça fait 20 ans qu'il est dessus, je crois. Alors, il pèse tous les mots, tous les versets, il cherche le consensus. Et il a paraphrasé ce livre d'Ésaïe de la manière suivante. Si ça veut. Voilà. Le but du livre d'Ésaïe est donc de remplacer la vision de l'homme par la vision de Dieu. Le but du livre d'Ésaïe est donc de remplacer la vision de l'homme par la vision de Dieu. Alors ce chapitre 42 s'inscrit, comme je l'ai dit, dans une série de quatre poèmes mentionnés que l'on appelle « Chant du serviteur ». Mais moi, personnellement, je dirais que c'est plutôt un chant de Dieu, décrivant, annonçant son serviteur. Et là aussi, il y a également trois dimensions du serviteur dans ce texte que nous allons lire. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas, il ne saura pas le ton et ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Il ne cassera pas les roseaux abîmés et ne teindra pas la mèche qui fume encore. Mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. Il n'affaiblira pas et ne se relâchera pas jusqu'à ce que je lui ai instauré le droit sur la terre. Les îles placeront leurs attentes dans sa loi. Voici ce que dit l'Éternel. Le Dieu qui a créé le ciel et l'a déployé, qui a disposé la terre et tout ce qu'elle produit et qui donne la respiration à ceux qui l'a fait. Je perds la ligne. À ceux qui le peuplent, le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice et je tiendrai fermement par ma main. Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel. Voilà quel est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Les premiers événements qui se sont produits, je vous en révèle de nouveau. Avant qu'il en soit en germe, je vous les annonce. Chantez un cantique nouveau en l'odeur de l'Éternel. Chantez ses louanges depuis les extrémités de la terre, vous qui naviguez sur les mers et vous qui les remplissez, îles et habitants des îles. Que le désert et ses villes fassent entendre leur voix, ainsi que les villages occupés par Kédar. Que les habitants de Séla expriment leur allégresse. Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Je crois que je ne vous ai pas envoyé la suite. Si, c'est bon. Qu'on donne gloire à l'Éternel et que dans les îles on programme ses louanges. L'Éternel sort pareil à un héros. Son zèle passionné le fait surgir comme un homme de guerre. Il pousse des cris de joie, des cris de guerre. Il montre sa force contre ses ennemis. Alors ce thème sur le serviteur de l'Éternel comporte trois dimensions. La première sera la présentation du serviteur, deuxième la mission du serviteur et la troisième la fidélité du serviteur. Alors la présentation du serviteur, c'est en fait de Dieu qui tient la première place dans le livre d'Ésaïe. Tout émane de lui et tout converge vers lui. C'est pourquoi il suscite trois serviteurs. Bien, le premier serviteur, c'est Ésaïe lui-même, bien entendu. Car son nom signifie « Dieu est mon salut ». Et même si nous savons très peu de choses sur lui, c'est un homme qui met en avant le message prophétique de Dieu dans un esprit de serviteur, et non dans sa propre personne en tant que prophète. C'est un homme courageux, bénissant sa peur des hommes par la crainte de Dieu. C'est un homme fidèle à Dieu, humble et compatissant. Et il a une foi inébranlable dans le Dieu de l'Alliance, foi qui exclut tout recours à des soutiens humains. Il est prêt à s'engager au point de renoncer à sa dignité personnelle aux yeux de ses contemporains. Et il avertit les royaumes d'Israël et de Juda à rétablir leur alliance avec Dieu plutôt que de se tourner vers des idoles et établir des alliances militaires avec des puissances étrangères. Sans quoi ils subiront le châtiment éternel, inévitable de Dieu. Et le deuxième serviteur que nous pouvons voir aussi dans ce texte, c'est Cyrus, le roi des Mèdes. Le roi des Mèdes, Cyrus, qui libère le peuple de l'exil. Et en fait, pourquoi il le libère? C'est parce que Dieu lui parle. Dieu parle à un roi païen de libérer son peuple. Dieu, dans sa souveraineté, parle et ordonne au roi de libérer son peuple. Et le serviteur Cyrus, eh bien, il obéit à la volonté de Dieu. Ça ne veut pas ce matin. C'est bloqué. Tu peux envoyer peut-être, je sais pas, la suite. Alors je vais vous le lire, j'ai des versets bibliques. Hein. Ah voilà, merci. Alors c'est avant, oui. Ça peut-être. Voilà, c'est. Oui. Ah voilà, c'est là, merci. Ésaïe 44, 28. Je dis à propos de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem, sois reconstruite, et au temple, que tes fondations soient posées. Et c'est ce que nous retrouvons dans le livre d'Esdras, lorsque, au retour de l'exil, ils reconstruisent le temple. En Ésaïe 45, verset 1 à 4, « Voici ce que dit l'Éternel à celui qu'il a désigné par onction, à Cyrus, celui qui tient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui, afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les pentes, je mettrai en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous en fer. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est à cause de mon serviteur Jacob, à cause d'Israël, celui que j'ai choisi, que je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Et enfin, il y a le serviteur parfait en la personne de Jésus, qui signifie Dieu sauve, appelé également Emmanuel, Dieu parmi nous. En Ésaïe, verset très connu, Ésaïe 7, 14, « Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. » Il n'est pas choisi par ses qualités humaines, ses compétences, ses connaissances, non, il est simplement choisi par grâce, par la grâce de Dieu le Père. C'est pourquoi au lieu d'être un vain souffle comme les idoles des royaumes de Juda et d'Israël, que nous pouvons retrouvé dans Ésaïe 41, verset 29, « Ils ne sont tous que tromperies, ils ne fabriquent que du vide, leurs idoles ne sont que du vent, c'est le désert. » Le serviteur, lui, il est rempli de l'Esprit Saint, le Saint d'Israël, sauveur de ceux qui ont foi en lui. Dieu a mis son esprit sur le serviteur. La justice que le serviteur apportera en sera la preuve. Et il fera ce que beaucoup de dirigeants d'Israël n'ont pas réussi à faire. Gouverner avec justice, avec droiture, tourner vers le regard vers Dieu. Et donc les promesses faites au peuple de Dieu dans Ésaïe chapitre 1 à 39 commenceront à porter leurs fruits au travers de ce serviteur rempli d'esprit, car il portera la justice de Dieu. Et l'action de Jésus va plus loin que celle d'Ésaïe, et plus encore que celle de Cyrus. Jésus a une foi inébranlable dans l'action de Dieu le Père. Il est prêt à obéir à la volonté du Père, à renoncer à sa vie personnelle par son sacrifice à la croix, et de glorifier Dieu par sa résurrection. Victoire sur la mort éternelle de nos âmes, enfin, afin d'accomplir le plan rédempteur pour les nations. Mon deuxième point, mission du Sauveur. Alors que Cyrus libère le peuple captif par la puissance militaire, le Messie libère les âmes captives de l'idolâtrie par sa justice, sa puissance spirituelle venant de Dieu. Ésaïe montre que Dieu est souverain sur l'histoire. Dieu est le seul vrai Dieu conduisant le destin de l'humanité. Dieu seul et non les idoles ont des puissances étrangères, ont des projets pour les hommes. En Ésaïe 46, versets 8 à 11, « Souvenez-vous de tout premier événement. En effet, si moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre, je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver, et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis mon projet se réalisera, et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie. D'une terre lointaine, l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je vous en révèle. Je le mettrai en œuvre. » Et en Ésaïe 42, 8 et 9, « Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Les premiers événements se sont produits, et je vous en révèle de nouveau. Avant qu'il en soit en germe, je vous les annonce. » De par ces textes, Ésaïe rappelle aux Juifs ce que Dieu a déjà fait par Moïse, le médiateur de l'alliance précurseur de Christ, que nous pouvons penser aussi à la mission d'Abraham. Mais Ésaïe rappelle également ce qu'Israël n'a pas fait. C'est pourquoi Dieu annonce la venue de Jésus le Messie, pour instaurer une nouvelle alliance, pour reconstruire et non pour détruire, afin d'établir la promesse qui a été faite en Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays où je te montrerai, que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ésaïe appelle le peuple à la repentance et au retour à Dieu. Il affirme que la plus grande folie humaine est de ne pas reconnaître, de ne pas se soumettre et de ne pas se confier à Dieu. Ésaïe montre également que la véritable rédemption revient du Messie, le serviteur de l'Éternel. Et à l'origine, le peuple juif devait être serviteur de l'Éternel. Mais comme il n'a pas rempli cette mission, eh bien Dieu avait bien entendu un plan. Ce plan étant le Jésus, Messie. Après la venue de Messie, Dieu considéra tous ceux qui se convertiront comme ses serviteurs, ceux qui seront tous sous la justice de Dieu, en d'autres termes, qui auront été justifiés par le Messie, qu'ils soient juifs ou non, une lumière pour les nations. Et Jésus accomplit sa mission en Matthieu 12, 15 à 21. Les pharisiens sortirent et tinrent conseil sur les moyens de le faire mourir. Jésus le sut et s'éloigna de là. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute mon approbation. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne cassera pas les roseaux abîmés, il n'atteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Les nations espéreront en son nom. » Texte écrit bien plus tard, 700 ans plus tard, on va dire. Un autre texte de l'apôtre Paul, dans le livre des Actes, chapitre 26, 22 à 23. « Mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui de rendre témoignage devant les petits et les grands. Je n'y dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. » J'en arrive à ma troisième dimension, la fidélité du serviteur. Et la fidélité de Dieu envers son peuple se révèle au travers du Messie, le serviteur de l'Éternel, qui a tout à la fois un nouveau Moïse, un nouveau David, un nouveau Cyrus. La fidélité de Dieu se traduit par un cantique nouveau, dans le sens qu'il célèbre un événement inédit, celui de la victoire spirituelle remportée par le serviteur de l'Éternel, agissant en la qualité de lumière des nations. En Ésaïe 35, versets 4 à 6, « Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur, voici votre Dieu. Elle viendra à la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors les boiteux sauteront comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. » Dans de nombreuses religions, des chants sont récités, mais ils ne peuvent être chantés avec autant de joie et d'enthousiasme que les cantiques qui proclament la réalité du salut de Dieu et des vies transformées. Dans la Bible, le cantique nouveau est à de nombreuses reprises un appel aux nations à découvrir ce chant qui a le pouvoir de nous faire vibrer de tout notre être. Et on retrouve le même appel dans les psaumes. Psaume 96, versets 1 à 2. « Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom. » Annoncer du jour en jour son salut. Plusieurs cantiques nouveaux dans la Bible sont écrits en témoignage à la délivrance que Dieu offre dans ses cas précis de danger. Ainsi, David s'écrit, psaume 40, 3 et 4, « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le rocher, il a affermi mes pas. Il a mis sur ma bouche un cantique nouveau. » Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. et la beauté des œuvres de Dieu inspireront de nouveaux chants jusqu'à la fin des temps, comme en témoigne le livre de l'Apocalypse. Chapitre 5, versets 8 à 10. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Le cantique nouveau, nous pouvons le résumer en deux phrases. Le cantique nouveau est une réponse spirituelle à la fidélité de Dieu. Dieu agit de nos jours par la même fidélité et puissance qu'il a manifestée dans le passé et qu'il agira dans le futur. En conclusion, deux aspects. Le premier aspect, c'est que dans le mot serviteur, il y a le mot service, n'est-ce pas? Et c'est une belle introduction en ce temps de Pâques, ce temps de service de Pâques. Alors nous allons, avec Anne-Claude, nous proposons un temps de prière pour que nos cœurs, durant ce temps de Pâques, eh bien, soient remplis de la douceur de Christ envers ceux qui recherchent le cantique nouveau, de la douceur, de la compassion. Et puis, j'ai deux questions. Je nous laisse deux questions ce matin. Est-ce que Dieu est le sujet de ma joie, comme nous l'invite ce cantique nouveau? Est-ce que je suis un sujet de joie pour Dieu, à travers de ce que je vis dans ma relation avec lui? Amen.